Alors, comme promis, on la reçoit cet après-midi. Elle travaille présentement. Elle est tellement connue. Je vous en parlais au début de l'émission. Elle travaille présentement sur les ondes de notre grande sœur à Montréal, 98.5. On peut l'entendre sur tout le réseau Parler Cogeco. Nathalie Normandeau est avec nous. Bonjour, Nathalie.
Oui, allô, René, ça me fait plaisir.
Oui, on va expliquer aux auditeurs, on a décidé de se tutoyer.
Oui,
Il y a tellement de choses qui, dans le fond, on a tellement suivi ton histoire qu'on a l'impression de te connaître, de vous voyez, j'aurais eu l'impression là, de ça n'aurait pas fonctionné.
Mais c'est bien de le dire, hein, pour le bénéfice des auditeurs, qu'on se tutoie, parce que j'ai compris qu'en général, les auditeurs préfèrent qu'on se vouvoie.
Oui.
Mais le tutoiement, sa place, mais dans certaines circonstances. Puis là, on convient que la circonstance, c'est ça.
Oui.
On annonce et on affiche nos couleurs auprès des auditeurs.
Ben oui, effectivement. Nathalie, tu fais la tournée médiatique aujourd'hui et dans les prochains jours. C'est parce que tu sors ton livre « Nathalie Normandeau devant l'injustice » et les auditeurs comprendront bien qu'à travers cet ouvrage-là, tu vas raconter cette fameuse péripétie qui a débuté en mars 2016.
Oui, et René, j'ajouterais « Debout devant l'injustice » parce que c'est le titre du livre. Au départ, je vais te faire une confidence, j'avais choisi le titre de « Debout devant la justice ».
Okay.
Et avec l'éditrice, on s'est dit « Ben voyons, non ». J'ai vécu une injustice, donc oui, je me suis tenue debout devant l'injustice. Tu l'as dit, ma saga judiciaire a duré plus de 4 ans. C'est une saga judiciaire et c'est une histoire inusitée, hors norme. C'est la première fois dans l'histoire politique au Québec qu'une ex-ministre, ex-vice-première ministre de surcroît, est arrêtée pour des allégations de nature criminelle qu'elle aurait commises dans le cadre de ses fonctions. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on arrête une ancienne ministre de cette façon. Je dirais de cette façon et pour ces raisons. Moi, j'ai été accusée de fraude, de collusion, de corruption, d'abus de confiance. Je me suis retrouvée un jour avec 8 chefs d'accusation. Et lorsque les enquêteurs de l'UPAC sont venus cogner à ma porte à 6h du matin, le 17 mars, 2016, je n'avais aucune idée, René, de ce qui m'attendait. Un, je ne m'attendais absolument pas à recevoir leur visite. Un. Et deux, lorsque je me suis retrouvée dans la salle d'interrogatoire avec les deux enquêteurs, je te le dis, là, je croyais que ma vie était complètement finie. Moi, c'était la fin, là, tu comprends? Je ne voyais pas de lumière au bout du tunnel.
Et à ce moment-là, Nathalie, bon, tu n'étais plus en politique. Tu étais, ma mémoire est bonne, sur les ondes du FM 93. Tu étais avec Éric Duhaime, je pense même.
Effectivement, on co-animait une émission qui s'appelait Normando Duhaime le midi. On était ensemble depuis plus d'une année. On avait commencé en janvier 2015, tu vois. Ça faisait un peu plus d'une année. Et tu vois, quand j'ai quitté Éric la veille de mon arrestation, ni lui ni moi, on aurait pu imaginer que ce serait notre dernière émission en onde, parce que plus jamais on a fait de la radio ensemble. Puis tu connais le parcours d'Éric, là, aujourd'hui, il est en politique. Alors, c'était extrêmement traumatisant pour moi, pour Éric à ce moment-là, pour ma famille, mes proches. Je dis toujours, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, parce que se retrouver avec des accusations criminelles, c'est moi qui n'ai jamais eu d'histoire avec la justice, avec la police, j'ai pas de casier judiciaire, tu comprends? Et là, je me suis tellement posé la question, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de si répréhensible qui mérite des accusations criminelles? Et le livre m'a permis de trouver des réponses à toutes ces questions que je me suis posées pendant des années. Puis je peux te dire, René, j'en ai fait de l'insomnie, des nuits blanches, stress, anxiété, humiliation vécue à répétition. Parce que tu comprends que là maintenant, là, j'étais pointée par les gens que je rencontrais dans la rue. Là, c'est elle la pas fine, là, c'est elle la criminelle. J'étais du jour au lendemain, dans le fond. Je suis devenue un paria dans la société. Là. Les gens ont douté de ma probité, de mon honnêteté, de mon intégrité. C'était extrêmement difficile. C'était l'enfer, en fait. Alors, ce livre-là m'a fait beaucoup de bien.
Oui, puis à l'intérieur du livre, est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Parce que, bon, les gens qui n'ont peut-être pas suivi ton dossier, maintenant, les accusations ont été retirées, mais est-ce qu'on sait pourquoi?
En fait, il y a eu un arrêt des procédures. En fait, j'ai déposé une demande d'arrêt des procédures ça s'est passé le 25 septembre 2020, donc ça fait une année bientôt. Pourquoi? Parce que je voyais pas le jour où j'aurais un procès, puis moi, je voulais un procès séparé des autres co-accusés, parce que dans l'histoire, au départ, on était 7 personnes, et voyant que j'aurais pas mon procès, je me suis dit, ben là, je peux pas vivre dans les limbes de la justice pendant toute ma vie, là, c'est pas possible. Alors, j'ai formulé une demande d'arrêt travers des procédures, c'était accepté. Et pourquoi j'ai été arrêtée? Ben, ce que j'ai découvert, ça peut sembler absolument abracadabrant, absolument surréaliste, mais dans le fond, c'est assez simple. J'ai été arrêtée pour permettre au chef de l'UPAC de l'époque, Robert Lafrenière, d'être renouvelé dans son mandat à la tête de l'UPAC. L'homme n'étant pas le favori à l'époque du gouvernement pour veiller à la bonne gouverne de l'UPAC, on avait une autre candidature, on préférait une autre candidature. Alors lui, il a décidé de prendre les grands moyens, hein, comme on dit au grand mot, les grands moyens, pour être renouvelé. Et ça a marché, ça a fonctionné. Il a fait plier le gouvernement. C'est littéralement ce qui s'est passé, là.
Donc, dans le fond, tu as servi de chair à canon, c'est un peu ça, là.
Oui, mais je veux te dire, René, que j'ai eu beaucoup de difficultés avant d'admettre que j'ai été un bouc émissaire. Moi, je suis pas une victime dans la vie. Ça fait pas partie de mon ADN. Je suis une fille qui assume les décisions que j'ai prises dans ma vie. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que, tu sais, admettre que tu es un bouc émissaire dans une histoire comme celle-là, c'est fou, là. C'est complètement fou, là. Tu dis, non, je peux pas croire qu'on m'a arrêté accusé juste pour ça. Mais oui, on m'a accusé pour ça, pour faire couler le sang libéral, en fait. C'est carrément ça. T'sais, on voulait du sang libéral, on m'a ciblé, on voulait une tête, faire tomber une tête libérale avec dans tout ce contexte où tu te remettes à l'époque, là, après la commission Charbonneau, là, les rumeurs de financement politique illégal en échange de contrats publics. Il y avait énormément de suspicions à l'endroit de la part des citoyens, à l'endroit des élus. Alors, c'est tout ce contexte-là a fait en sorte que ben, je suis devenue une victime de ça, là.
Est-ce qu'on réussit à passer, à mettre ça derrière nous? Je suis tellement content, ça va bien. Tu as réussi à faire de la radio dans une station qui s'appelle Boulevard à Québec. Par la suite, tu as été approché vers Montréal. Et là, tu es sur tout le réseau Cogeco. Mais est-ce qu'on réussit vraiment là, à être capable d'avoir une nuit de sommeil tranquille, de faire abstraction de tout ça? Parce que c'est 4-5 ans de péripéties, c'est incroyable.
Ah ouais, puis c'est 4-5 ans, c'est plus de 4 ans de ma vie là qui m'ont été enlevés, qui m'ont été arrachés là. On peut pas appuyer sur le bouton reset puis revenir en arrière là, c'est impossible. J'ai fait énormément d'insomnie, j'en fais d'ailleurs encore. J'ai lutté pour ne pas sombrer, puis je me suis jamais plaint de ma situation auprès de mes proches. T'sais, je me suis relevé les manches comme une bonne Gaspésienne, je me suis dit on va faire face aux vendesses qui se présentent. Mais je me suis surtout dit, René, ils m'auront pas la peau. Ils ne m'auront pas la peau. C'est pas vrai qu'ils vont gagner parce que moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait. Et je sais que je n'ai pas commis les gestes criminels qu'on m'a reprochés pendant toutes ces années. D'ailleurs, le DPCP, 3 ans après mon arrestation, a décidé d'abandonner les 2/3 des charges à mon endroit, admettant qu'il n'y avait pas de preuves pour soutenir les accusations dont j'ai fait l'objet. Alors, tu vois, à un moment donné, tu te dis, la fête, ton instinct de survie est tellement fort, c'est comme si j'étais embarqué sur un ring de boxe, puis là, je me disais, c'est sûr que les coups vont faire mal, il y a des fois où je vais avoir de la difficulté à me relever, mais tu comprends? Je m'accrochais toujours à l'idée de, ben, à un moment donné, la vérité va finir par triompher. Et voilà, puis il s'est tellement passé de choses que tu vas découvrir et que les auditeurs de ton émission et de votre antenne vont découvrir en lisant le livre. Il y a des affaires, là, je te le dis, René, absolument abracadabrante que j'ai découvert.
Ah, écoute, je suis tellement pas inquiet. Je sais que la question t'a déjà été posée, tu disais que tu étais en réflexion. Ouais. Est-ce qu'on veut revenir contre le système parce que ça a quand même volé 4 ans de ta vie, là?
Oui, mais moi, très objectivement, avec les préjudices que j'ai subis, puis si ces préjudices moraux, évidemment, oui, puis ça coûte, c'est quand même, ça coûte des sous, là. Il faut investir énormément d'argent pour se défendre. Mais au-delà de ça, c'est les humiliations répétées jour après jour, semaine après semaine. Ma réputation qui a complètement été démolie. Dans 10-15 ans, tu vas taper Google, Nathalie Normandeau sur Google, probablement qu'il y a encore mon nom qui va être associé à tes accusations de nature criminelle. Alors, faut que j'apprenne, j'ai un deuil à faire, il faut que j'apprenne à vivre avec mes accusations. Ça, c'est très triste, mais en même temps, je me dis, il faut avancer. Alors oui, je mérite compensation pour tous ces préjudices, mais en même temps, ce que j'ai le goût de replonger dans cette histoire dans le système de justice, parce que un citoyen qui se bat contre le système, là, c'est le combat de David contre Goliath. Là. T'es mieux d'attacher ta tuque bien solide, bien serrée, parce que ça va brasser. Là. Le gouvernement et l'État du Québec, l'État a d'énormes moyens pour se défendre. Là.
Oui.
C'est assez incroyable. Là. Comme on dit, ils ont la poche creuse. Là. Ils peuvent faire traîner des causes en longueur pour te décourager. Enfin, fait que je suis dans, tu comprends? Je suis dans ce genre de questionnement actuellement.
Bien sûr, j'imagine qu'écrire le livre, mettre ça sur papier, ça a eu un effet un peu libérateur?
Oui, puis c'est peut-être cliché de le dire, mais il faut que j'ajoute, oui, c'était libérateur, mais j'étais très en colère moi, lorsque j'ai commencé à écrire le livre. J'étais vraiment révoltée, indignée de ma situation. C'est une injustice que j'ai vécue, je le vivais comme tel. Mais tu vois, plus les semaines s'écoulaient, plus les mois s'écoulaient, plus j'écrivais, ça me faisait du bien. Puis là, ma colère s'apaisait un peu. Mais je vais toujours demeurer indignée par rapport à ce qui m'est arrivé parce que c'est vraiment une injustice. Là.
Ouais.
On m'est ciblé puis qu'on dit on veut sa tête. Qu'on a de la preuve ou pas, là, on veut sa tête. Là, parce qu'il faut faire payer quelqu'un puis c'est elle qui va payer.
Ah, c'est particulier. Je veux. On va inviter les gens tout à l'heure, bien sûr, à acheter ton livre, mais je veux qu'on parle quelques instants de cette nouvelle émission que tu animes là, sur tout le réseau Cogeco. Je trouve ça le fun. L'effet Normando tous les midis, tous les matins. Hein?
Oui, tous les matins, c'est de 10h à midi. Oui, c'est une émission qui tente de se démarquer par rapport à ce qui se fait partout dans le réseau, mais pas aussi par rapport à la compétition. C'est un mélange de lignes ouvertes, de courriels, de textos. En fait, on a créé une ADN qui est tournée autour des auditeurs avec des invités qu'on fait interagir avec nos auditeurs. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit une émission dynamique. Puis, on s'inspire de l'actualité, René, mais on n'est pas au creux de la nouvelle. Ça veut dire. Je donne un exemple concret. Ce matin, on a fait Jonathan Drouin, qui a révélé ses problèmes d'anxiété, d'insomnie. Alors, on part de cette nouvelle-là, on interpelle nos auditeurs comment vous composez avec l'anxiété. Là, c'est incroyable, les témoignages qu'on reçoit. Et tu vois, ce matin aussi, j'ai interpellé les auditeurs. C'est en ce lendemain de veille électorale, là, que, comment vous vous sentez? Vous êtes fâchés? Déçu, indifférent, colère, satisfait. Alors, tu vois, on essaie de conduire les électeurs ailleurs que dans le creux de la nouvelle comme telle, mais tout en s'inspirant de l'actualité, on s'entend.
Bien, je vais donner l'autorisation à mes auditeurs d'aller faire un petit tour pour t'écouter.
C'est gentil à toi, René. Vraiment gentil.
Nathalie Normando, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous. Donc, le livre est disponible « Debout devant l'injustice ». C'est Libre Expression qui produit donc votre livre. Je te souhaite plein de copies, sérieusement, puis j'invite les gens
à le lire. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup, René. C'est important pour moi que le but, là, c'est que le maximum de personnes puissent prendre connaissance de mon histoire, la partager, que les gens, tu comprends, peu importe le jugement que les auditeurs, que l'électeur ou la lectrice va porter sur mon histoire, l'important, c'est qu'on puisse en parler et qu'ils puissent prendre connaissance de ce que ça signifie passer à travers le système de justice pendant toutes ces années.
Nathalie Normando, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous.
Bye-bye, René. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir.